Robert, j'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi au Kasai Oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci de nous accepter chez vous, mesdames et messieurs. Une fois de plus, merci de votre fidélité. À parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen sur Radio Okapi, la fréquence de la paix. Le service du conseiller spécial du chef de l'État en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme a annoncé la semaine dernière d'autres cas de complicité des détournements des deniers publics et abstention coupable des fonctionnaires. Quatre personnes, dont des responsables du port de Matadi, sont poursuivies et pour des graves détournements des deniers publics, dont le montant se chiffre à plusieurs millions de dollars. Et aux dernières nouvelles, ces responsables ont été relâchés par la justice. Alors, ceci vient compléter la longue liste des cas de corruption déjà publiée par le même bureau du conseiller Luzolo Obambi. Comment commentez-vous cette actualité? Vous pouvez participer à ces débats directement en composant les 081 890 63 30 ou encore les 081 890 49 69. Vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page de Facebook. Merci à tous ceux qui ont lu et commenté ces sujets déjà sur notre page de Facebook. Toute l'équipe est là pour vous tenir compagnie et Héritier Sidiakala, Nico Kalambay et Pierrot et Lameji, tous concourent à la production de cette émission supervisée par Martin Sebujangwe et coordonnée et présentée par J.R. Lungembo Luabung Angie. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous ouvrons ce débat avec vous, ingénieur Batier, vous êtes à Kisangani. Bonjour. Allô? Voilà, Tsingy, vous êtes avec nous?
Allô?
Allô, Tsingy, vous avez la parole.
Oui, merci beaucoup à Radio Capi et à nos très chers auditeurs. Nous, les problèmes, c'était simple. Pourquoi on a nommé Luzolo Bambe comme conseiller en matière de la anticorruption? C'était pour jouer le rôle de police dissuasive. C'est-à-dire qu'il devait commencer à inquiéter les mandataires, les ministres, tout là où se passe la corruption. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Vous savez que Luzolo Bambe, pour rappel, c'est un expert en procédure. Mais lorsqu'il dénonce quelqu'un, mais c'est à l'organe compétent de se saisir de faire le bulletin d'information. L'organe compétent, c'est quoi? C'est les procureurs. Alors, pourquoi ça ne se passe pas ainsi? Simplement parce que le loup entre et ne se mange jamais. Vous vous souvenez, avant que Moïse Katumbi quitte la fonction de gouverneur, il était cité dans les rapports, il n'a pas été inquiété. Mais lorsqu'il a quitté, maintenant on dit, ah non, il a falsifié les documents, ah non, il est corruptible. Donc, c'est-à-dire, en d'autres termes, ça a été fait pour traquer les opposants.
Alors, au regard de la situation dans notre pays, Tsingy, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la cause de la corruption, c'est parce que les fonctionnaires ou encore d'autres mandataires n'ont pas pratiquement à respecter les contrats, soit des performances ou encore de respect de l'éthique de leur travail?
Oui, mais un mandataire de l'État, ce n'est pas une fonction passive. Hein? C'est une fonction active. Et on devient mandataire de l'État. L'État lui a mandaté pour quelle fin? C'est pour un objectif. Pendant ces 2 ans, voilà ce que nous attendons de vous. Il ne le fait pas. En dehors qu'il n'a pas arrivé à satisfaire les peuples, mais on constate les détournements. Je vous donne un cas. Il y a eu rumeur que dans la maison du Premier ministre, il y aurait disparition de 400 000 dollars.
Oui, parce qu'il y a ce sont des rumeurs.
La chaîne de télévision Peter Tani n'a fait que relayer l'information. Mais comme ça fait partie de une dénonciation, mais qu'on devait vérifier. Mais comme il s'agit de la corruption de quelqu'un qui est membre de la boîte qu'on ne peut pas arrêter parce que c'est un loup entre eux, Non, on fait arrêter maintenant les Peter Tchani, les journalistes. Mais ça ne peut pas être ainsi.
Voilà.
C'est-à-dire que pour terminer la corruption, la corruption, ce n'est pas quelque chose à combattre au niveau où vous êtes en train de combattre ça. D'où vient la corruption? Dans un pays, dans tous les pays du monde entier, pour lutter contre la corruption, ils ont compris deux choses. Un peuple corruptible, c'est un peuple malhonnête, c'est un peuple misérable. Et pour faire sortir le peuple de la pauvreté, de sa misère, il faut lui donner les opportunités. Ces deux opportunités, c'est quoi? C'est un régime alimentaire meilleur et une éducation. J'insiste. Dès lors qu'à l'école primaire, l'enfant étudie difficilement, il ne sait pas écrire, bien écrire ou bien lire. À l'école secondaire, à l'université, il va commencer à tricher. Et pour avoir l'emploi, il va tricher. Pour travailler, il va tricher. Finalement, la tricherie ne fait qu'augmenter. C'est ce que vous constatez. Un ministre corruptible, un mandataire de l'État corrompu, vous avez suivi Matata Pone, le premier ministre de son rang, devant l'hémicycle. On crée une motion de censure contre lui. Matata Pone lui-même dit ceci. Vous me créez des problèmes parce que j'ai refusé votre corruption. Et les députés répliquent. C'était en pleine télévision nationale congolaise. Les députés répliquent. Alors, qu'est-ce que tu veux? Parce que tu ne sais pas conjuguer le verbe manger, tu verras. Et on n'a arrêté personne.
Oui.
On n'a arrêté personne.
Voilà. Donc, et si ça, je comprends bien votre souci.
À la légère. C'est-à-dire quoi? Les conseillers d'un président de la République en matière de l'anticorruption, il ne sait plus quoi faire parce que s'il était réellement conseiller, il fallait qu'on lui donne le plein pouvoir. Et pourquoi le chef de l'État ne dit rien pour toutes ces dénonciations?
Voilà. Alors, donc, nous allons voir ça avec notre invité. Le temps d'écouter peut-être l'ingénieur Bathier. Bathier, vous êtes avec nous à Kisangani?
Oui, merci de m'avoir passé la parole.
Alors, ingénieur Bathier, pour vous, vous estimez qu'aujourd'hui, quand on parle encore de la corruption, quelle serait à la base de cette corruption en RDC? Parce qu'on se rend compte qu'on parle de corruption au niveau des fonctionnaires, on parle de corruption au niveau des écoles, on parle de corruption presque partout. Alors, c'est quand même un malaise. Qu'est-ce qu'il faut faire aussi pour éradiquer cela?
Pour éradiquer cela, monsieur le journaliste, il faut changer juste les systèmes qui existent. Parce que ces systèmes, ils ont officialisé la corruption. Ils ont fait que la corruption soit normale au pays. C'est-à-dire que pour même acheter quelque chose, il faut corrompre. Pour acheter corrompre, pour vendre corrompre, tout, il faut la corruption. Moi, je pense que pour qu'on puisse changer ça, il faut que les gens qui sont là, qui sont à la hauteur de ça, il faut qu'ils soient changés. Parce que c'est le système complet qui est là, c'est un cercle tissu. Ils ont organisé leur cercle et c'est juste la corruption.
Voilà.
Alors, pour qu'on puisse éliminer ça, moi je pense que c'est le système qu'il faut changer. À part ce système-là, je pense que si on ne change pas le système, les cercles vicieux, ça va continuer. Avec les gens qui nous dirigent, c'est eux qui sont dans le système.
Donc, voilà, merci beaucoup, ingénieur Bathier. Alors, nous avons le plaisir de recevoir, d'accueillir en ligne le magistrat Justin Mouéou. Justin Mouéou, vous êtes avec nous, bonjour. Alors, vous êtes le substitut du procureur général près la cour d'appel de la Gombe. C'est vrai, nous parlons de la corruption aujourd'hui, qui semble être quand même une lutte très, très, très difficile à faire, parce que bon, on signale des cas de dénonciation, des cas de corruption, ça et là, mais finalement la justice libère toujours, ou peut-être s'est dessaisie de cette dénonciation. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la justice n'a pas tous les moyens possibles, la justice congolaise bien entendu, pour lutter efficacement contre cette corruption?
Bon, merci pour m'avoir invité à me joindre à cette problématique. Il est vrai que d'aucuns pensent que la justice ne fait pas son travail. Mais est-ce que on se pose la question, quels sont les éléments qui sont mis à la disposition du magistrat? Parce que vous devez savoir une seule chose. La corruption, elle est passive et active. Il y a un corrompu et un corrupteur. Les deux personnes entrent dans une combinaison ou dans une corréité dans la commission des faits infractionnels. Et ils ne peuvent pas, la dénonciation commence à poser problème. Et que les éléments requis pour la cristallisation de l'infraction peuvent poser problème. Et lorsque ces éléments-là posent problème, dites-vous, il est vrai que les éléments ne peuvent pas être réunis et la justice ne table pas sur les spéculations. La justice table sur les éléments probants ayant pour objectif d'établir la responsabilité pénale. Vous devez savoir que la responsabilité pénale est individuelle
Et en tant que tel, cette responsabilité ne peut être établie que lorsque les éléments constitutifs de l'infraction, que nous appelons la corruption, sont réunis. Voilà, il peut y avoir des problèmes par rapport à ça. Chacun peut avoir une pensée. Je sais que c'est un mot générique, hein, presque dans tous les pays, ça se répète souvent. On dit, bon, tel pays, c'est un pays corrompu où la corruption a déjà atteint tel niveau. Ce n'est pas exclu qu'on puisse parler aussi de la corruption en RDC. Mais je me dis, c'est un fléau. Si nous le considérons tel, nous devons prendre des dispositions et formaliser les choses de sorte que ce fléau soit éradiqué. Voilà.
Alors, on sait que, tous, en tout cas, on a appris que les procureurs de la République peuvent se saisir même d'une simple rumeur. Donc, à partir d'une rumeur pour chercher les infractions.
Oui, bon, nous savons.
Et dans les cas d'espèce, par exemple, quand c'est le conseiller du chef de l'État qui dénonce, c'est qu'il ne s'agit plus de rumeurs.
Non, cela veut dire que lorsque le conseiller spécial du chef de l'État a tout un service, il travaille avec les inspecteurs, il travaille avec les enquêteurs, n'est-ce pas? Les enquêteurs-là ont leur obligation primordiale, c'est d'établir cette responsabilité, les premiers éléments de culpabilité. Parce que vous savez que je ne pense pas qu'il travaille avec des magistrats, il travaille avec des OPJ. Alors, ces OPJ-là ont leur première obligation de pouvoir réunir les éléments, les premiers éléments, parce que vous savez que l'instruction préjudicielle est secrète. C'est les premiers éléments qui sont pris en considération lorsque nous magistrats, nous devons poursuivre l'instruction. Les éléments doivent nous provenir. Ces OPJ, nous les appelons nos yeux, nos bras, nos oreilles. C'est eux qui sont les premiers à descendre sur le terrain. C'est à eux de faire un travail fouillé et réunir tous les éléments pour permettre à l'officier du ministère public, qui est un professionnel, comme on l'appelle toujours que l'officier du ministère public, c'est l'OPJ par excellence, parce que les mêmes devoirs qui sont délégués à l'OPJ, le ministère public lui-même peut les faire. Alors à ce moment-là, quand nous avons déjà des éléments probants, et il y a possibilité que les auteurs de ces faits-là soient déférés devant les cours et les tribunaux.
Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on constate parfois une certaine latence, bon, passez-moi les termes, que ce soit pour moi trop latent l'action de la justice quand il s'agit réellement de ce travail qui est fait en amont par les OPJ qui travaillent par exemple dans ces bureaux ou dans ces services du conseiller spécial du chef de l'État? Parce qu'il y a 2, 3, 4 fois 4 rapports, silence radio. Jusqu'là, il n'y a pas de réaction. Et vous qui êtes le substitut, qu'est-ce qui se passe concrètement dans cette léthargie?
Bon, je ne saurais pas peut-être, n'étant pas le patron de l'action publique, hein, bon, bien que je sois substitut procureur général, il y a un chef. Qui pourra peut-être...
Oui, de manière un peu générale, comment ça se passe?
De manière générale, moi je me dis ceci, c'est comme je vous ai dit, tout part de la manière dont les dossiers ont été instruits. Voilà les problèmes. Tout part des éléments qui doivent concourir à l'établissement des faits pénaux. Parce que, vous savez, nous sommes aujourd'hui un pays, de par déjà la dénomination, les pays se dénomment République démocratique du Congo. Il y a les règles de la démocratie. Et vous devez savoir aussi que la Constitution dit toute personne, hein, est supposée être... innocente jusqu'à ce que les cours et tribunaux établissent sa culpabilité. Donc cette culpabilité-là ne peut être établie qu'au regard des éléments probants de chaque infraction dont telle personne est reprochée ou telle infraction qu'on a imputée à telle personne. Voilà, moi je me dis tout est fonction du professionnalisme et de la manière dont on fait le travail. On ne fait pas le travail de justice avec complaisance, on ne fait pas le travail de justice avec des spéculations. Le travail de justice doit être un travail fouillé. Le magistrat a pour obligation, surtout nous qui sommes du ministère public, nous avons l'obligation de rechercher les infractions, de déférer, de mettre la main sur les auteurs de ces infractions et les déférer devant les cours et tribunaux. Donc cela veut dire amener, envoyer un dossier en fixation. Suppose que ce dossier, lorsque nous l'envoyons en fixation, lorsque nous envoyons ce dossier-là en fixation, c'est pour que la responsabilité pénale de l'auteur soit établie.
Mmh.
Alors, est-ce que faudra-t-il amener un dossier en fixation et que les prévenus soient acquittés? Lorsque le procureur de la République, au niveau de parquets inférieurs, ou au niveau plus bas, les chefs de parquet, ou le procureur de la République, président de grande instance, ou le procureur général, une cour d'appel, lorsqu'il instruit un dossier, pas tous ces dossiers-là, bien qu'il y a des magistrats, ça revient au chef d'office et de parquet de gérer.
Si je comprends bien, la justice congolaise contribue efficacement à la lutte contre la corruption et autres formes de détournement.
Oui, mais je vous dis que la preuve n'est que jusqu'à ce jour, s'il n'y avait pas, vous savez déjà l'existence d'une structure comme un parquet et autres contribue efficacement. Et retenez que, en ce qui concerne les fonctionnaires et les autres, ceux qui entrent dans la chaîne, par exemple, de dépenses, ainsi de suite, pour arriver à établir les responsabilités pénales, ça demande des enquêtes
fouillées.
Parce que, pour établir les détournements, il faut l'audit. Et nous disons toujours que les problèmes qui se posent le plus souvent, même quand un ministre doit quitter le gouvernement ou quand on change de gouvernement ou quand on change les membres de conseil d'administration ou des comités de gestion d'une structure étatique, on ne procède pas à ce que nous appelons à l'audit. C'est l'audit qui doit précéder. Même si après on doit auditer, une fois on a les rapports de l'audit. Les rapports de l'audit, c'est un élément capital pour cristalliser toute infraction en rapport avec la gestion de la chose publique.
Tout à fait.
Donc, c'est aux Congolais de prendre soin de faire application de toutes les dispositions légales pour que nous puissions éradiquer ce fléau-là.
Donc, si je comprends bien, par rapport à votre réflexion aujourd'hui, si quelque part il y a cette persistance de la corruption, c'est l'absence de l'audit, premièrement. Et encore quoi? Quel autre élément?
Oui.
L'absence de l'audit, c'est quoi?
Oui, cela veut dire quoi? Il y a des auditeurs dans chaque structure, n'est-ce pas?
Mm-hmm.
En dehors de ces auditeurs-là, par exemple, dans les domaines de finances, il y a des auditeurs.
Mmh.
En dehors, nous avons une cour des comptes, n'est-ce pas? Après cette cour, il y a un parquet général. Et cette cour ne peut être les travaux. C'est l'Assemblée nationale qui peut mettre en mouvement les contrôles, ainsi de suite. À l'issue du contrôle, il y a toujours un rapport. C'est ce rapport-là que nous pouvons, nous, magistrats du parquet, du moins, en ce qui concerne nous qui sommes dans les poursuites judiciaires, nous pouvons nous servir déjà de ça comme élément probant pouvant établir la responsabilité pénale.
Mmh.
Mais quand il y a absence de l'audit, il y a absence de ce contrôle-là, ça sera difficile.
Mmh.
Je vous ai dit que les corrupteurs et les corrompus, ils sont dans un même sac.
Mmh.
Est-ce que peuvent-ils se permettre de se dénoncer?
Voilà.
La dénonciation.
Alors, donc, le préalable pour lutter efficacement, c'est l'instauration de l'audit dans la gestion de la chose publique et aussi les contrôles.
Oui, il faut toujours auditer. Même quand quelqu'un, n'importe quelle fonction que vous exercez, vous voulez quitter cette fonction-là. Ou quand on vous relève de votre fonction, on doit auditer. Vous avez trouvé quoi et vous avez laissé quoi?
Voilà, nous vous gardons en ligne.
S'il n'y a pas d'audit, on ne saura pas.
On ne saura pas. C'est le premier élément qui peut.
C'est l'élément pour établir la responsabilité pénale. En ce qui concerne la corruption et les détournements, les deniers public ou privé.
Nous vous gardons en ligne, Ghislain Mouéou, et nous rappelons que vous êtes le substitut du procureur général près la cour d'appel de la Gombe. Nous parlons de comment lutter efficacement contre la corruption, en rapport d'ailleurs avec cette liste publiée une fois encore par les services du conseiller spécial du chef de l'État, qui implique 4 personnes, dont les responsables du port de Matadi. Et dernières nouvelles, ils ont été d'ailleurs libérés, et cela relance les débats sur le travail que fait la justice, et que la justice contribue efficacement à la lutte contre cette corruption. Élie Lokwa nous a rejoint en Bandaka. Bienvenue à Bandaka également. Élie, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour Radio Capi, je remercie l'allocution de votre invité. Et je suis un peu joyeux d'entendre et d'apprendre effectivement qu'il est le substitut du procureur général de la République. J'aimerais aborder mon intervention et puis j'aurai une simple question que je vais m'adresser à votre invité, monsieur le substitut du procureur général de la République. Je pense que dans la mesure du possible, nous avons déjà entendu plusieurs publications des listes des personnes présumées auteurs de détournement des fonds publics. Et dans certaines évasions fiscales, nous avons entendu par les conseillers du président de la République de montrer des lettres contre la corruption la publication d'au moins 15 milliards de dollars qui est volatilisé dans le simple fait qu'il y a en fait des gens qui ne travaillent pas dans la procédure logique. J'aimerais dire ceci. Lorsque les conseillers travaillent, ils ne travaillent pas seuls, donc ils travaillent en collégialité avec le ministère public, et lui qui travaille, il ne peut pas publier les présumés auteurs du détournement des fonds publics sans que le président de la République, qui est le magistrat.
Voilà. Alors, Élie, si moi j'ai, Élie, non quoi? Élie, moi je venais de comprendre, oui. Je ne sais pas si peut-être, par peur d'être contredit aussi, j'ai compris l'invité qui disait tout à l'heure que les services du conseiller spécial du chef de l'État, notamment ce travail s'est fait au niveau des OPJ, qui sont de reste l'œil et l'oreille de magistrats. Alors quand le travail est fait, le fait qu'il y a l'absence de l'audit, est-ce que ces premiers éléments qui pouvaient établir la responsabilité pénale, quand c'est déjà faussé, même si ce travail est présenté au niveau de la justice, des fois il y a toute une procédure, il y a quand même un problème.
Oui, évidemment. Donc il faut auditer. On ne peut pas, en tout cas, condamner les personnes sans pourtant les écouter. Donc il faut auditer, demander au présumé de tourner des fonds publics si effectivement l'argent qui s'est volatilisé a été effectivement détourné. Mais j'aborde mon intervention dans ce sens ici. Lorsque le monsieur Luzon Lombard publie, le président de la République est au courant. Et lorsque vous constatez, vous avez suivi de certaines publications sur le plan africain, on place notre président de la République parmi les 10.
Est-ce qu'on peut rester un peu dans l'audit et le contrôle? Parce que là, finalement, quand il y a l'audit, n'est-ce pas? Et le contrôle est suivi, finalement, ça donne d'efficacité à la justice de pouvoir faire son travail. Parce qu'il y a, toute une étape à suivre dans la gestion de la chose publique. S'il n'y a pas l'audit, ben que voulez-vous quand la Cour des comptes demande, par exemple, à l'Assemblée nationale de faire le suivi et ces éléments qui pouvaient établir la responsabilité ne se retrouveraient pas. Je crois que c'est à ce niveau-là. Alors, on va prendre Bienvenue qui est en Bandaka. Bienvenue. Non, vous êtes avec nous. Bienvenue, vous êtes avec nous. Bonjour.
Oui, merci. Je suis avec vous.
Oui, quelle est votre contribution?
Bon, ma contribution, la thématique est tellement intéressante que je voulais articuler en ces termes. Moi, je pense que je salue d'abord l'invité, qui est un monsieur du ministère public, c'est bien. Mais moi, je pense, comme j'ai dit la fois passée, monsieur Luzon Lombard, en tant que conseiller spécial en matière de corruption, la première personne qu'elle pouvait...
Oui, bienvenue. Allô? Est-ce que vous pensez, comme les autres, que la justice aujourd'hui contribue efficacement à la lutte contre la corruption et le détournement?
Non, la justice congolaise, elle ne pouvait contribuer que si, lorsqu'elle pouvait être indépendante. Comme elle n'est pas indépendante, elle ne peut pas contribuer. Ça, nous ne devons pas mâcher les mots.
Alors, quels sont les préalables? Quels sont les préalables pour lutter efficacement contre la corruption? Parce que vous avez vu, notre invité a dit l'absence de l'audit et l'absence de contrôle.
Bon, moi, je pense, comme j'ai dit la fois passée, il y a un principe juridico-politique qui dit il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Je vous donne un exemple. Si aujourd'hui en Afrique décide, M. Zuma n'est plus président, il a eu beaucoup de griefs. Mais parmi les griefs, parce que il a utilisé l'argent de l'État pour réceptionner sa maison privée. Et les mêmes hauts magistrats que Zuma avait nommés n'ont pas tenu compte pour dire que non, nous étions nommés par Zuma, mais ils ont appliqué la loi. Ils ont dit les droits et c'est ce qui a fait que son propre parti, l'ANC, lui a demandé de démissionner. Chez nous, nous avons un problème. Il y a l'impunité, la justice n'est pas indépendante, et lorsque vous allez traquer les cadres du port de Matadi, alors que nous avons... Lorsque j'ai suivi tout à l'heure l'invité dire, à partir des rumeurs, on peut poursuivre quelqu'un. Mais c'est le seul pays au monde où la justice peut travailler librement, sans rumeur. Par exemple, je vous donne un exemple. Lorsque un député national, fit-il le jeune frère du chef de l'État, je ne cite pas les noms, qui va à Moanda, achète toute une cité, construit des maisons, et son grand frère...
Oui, mais je crois que bienvenue. Je crois
non,
que...
Journaliste,
oui,
donnez-moi la chance d'évoluer. Le problème avec vous, journaliste...
Je vous ai posé une question très très précise. Est-ce que vous estimez que la justice contribue à efficacement à la lutte contre la corruption et quels sont les préalables? Donnez-nous les préalables et comme ça on va évoluer. Quels sont les préalables pour lutter efficacement? Parce que notre invité a parlé tout à l'heure de l'absence de l'audit et l'absence du contrôle. Est-ce que vous avez d'autres éléments?
Les éléments sont clairs. Lorsque par exemple la première dame de la République construit les maisons au-delà de l'aéroport et distribue aux gens. Nous, dans un pays responsable.
Voilà. Donc, je crois qu'on s'entend pas bien. Moi, je vous ai posé une question sur les préalables et vous revenez sur des individus. Alors là, ça ne fait pas débat. Merci beaucoup. Bienvenue. Ingénieur Gaston, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, Radio Capé.
Quelle est votre contribution? Est-ce que pour vous, la justice contribue vraiment à la lutte efficace contre la corruption? Et quels sont les préalables pour éradiquer cette corruption et détournement et autres détournements?
Bon, la question que vous posez, vous orientez nos opinions dans le sens de la réaction de l'invité. Laissez-nous donner notre point de vue. Je pense que quand lui parle de l'audit, d'abord, je ne suis pas d'accord avec lui. Pour ne pas se perdre, je voulais commencer par dire ceci. Monsieur Luzon, le conseiller spécial avec qui j'ai passé toute une heure en train d'échanger, c'est un monsieur qui fait son travail. Il fait ministre de la Justice, donc il sait ce qu'il fait. Il n'arrête pas les gens sur base des soupçons ou sur base des intox, pas du tout. Il fait son travail. Je rappelle qu'il y a un professeur de droit français qui me disait que la justice, c'est comme l'étoile d'araignée. Les gros oiseaux passent, les petits sont retenus. On a suivi des Jerka. On a suivi la CAF de notre FECOFA. Ça n'aboutit pas. Pourquoi? Lui, il ne doit pas parler de l'audit. Qui doit auditer qui? Quand les faits sont clairs. Il y a une année, je suis passé à la Radio Capi moi-même. J'ai dit que j'étais à Matadi. Ce que j'ai vu, c'était inacceptable. J'ai dit que j'ai vu des gens ayant des exonérations sans avoir de conteneurs et qu'ils vendaient les exonérations au vu et au su de tout le monde. Aujourd'hui, nous avons constaté que cela a été arrêté, mais il vient d'être libéré. Ce n'est pas question de l'audit, c'est un problème de justice. Les loups ne se mangent pas. Tous ces gens qu'on arrête, ce sont des gros poissons. Ce sont des gros oiseaux, comme je viens de le dire, qui ne peuvent pas être arrêtés, M. Gilles. Vous comprendrez que toutes les enquêtes que M. Luzolo a faites, elles sont fausses. Non, ce sont des enquêtes qui sont basées sur des faits. Il a des éléments, il envoie ses inspecteurs sur le terrain. Une fois les éléments réunis, il a un dossier complet. Ce n'est pas un monsieur qui apprend les droits pour commettre des erreurs. C'est la suite qui ne se fait pas. Les procureurs qui est là, il ne peut que défendre parce qu'il est ministère public. Il ne peut pas dire le contraire, M. Zier. Et vous attendez que nous puissions appuyer un point de vue de celui que nous dénonçons. Parce que lui,
alors, selon vous, quels sont les préalables? À part ce que c'est qu'a dit le substitut, l'absence de l'audit et puis l'absence du contrôle, quels sont les préalables qu'il faut chercher à pour arriver à éradiquer la corruption et les détournements?
Pour éradiquer la corruption, j'aurais bien voulu que le chef de l'État me suive, Joseph Kabila, qu'il puisse changer l'ordonnance normale, M. Luzolo, qu'on lui donne plus de pouvoir. Parce que lui, là, il s'arrête à arrêter et il transmet entre les mains des cours et tribunaux. Non, je voudrais que l'ordonnance de M. Luzolo ait, dans cette ordonnance-là, qu'on donne le pouvoir lui-même.
Un pouvoir contraignant, qu'il ait un pouvoir contraignant.
Voilà. Donc, il ne doit pas se rabattre à la justice qui est dans le système. Le système qui est là. Comment il peut nous dire que dans tous ces cas que nous dénonçons ici, ces gens, on les arrête, on se fait déjà casse. Tout un événement. Et deux jours après, on les libère. Il va dire qu'il n'y a pas l'audit. Qui doit faire l'audit? Et celui qui doit faire l'audit, quand il ne fait pas l'audit, qu'est-ce qui arrive? Rien, parce qu'ils sont dans ce même système. Les pouvoirs arrêtent les pouvoirs que dans un pays où il y a réellement les pouvoirs.
La justice.
Moi, je demanderais qu'on change l'ordonnance. Donc, on octroie plus de pouvoir à M. Luzolo, afin qu'il aille jusqu'au bout de ses actions.
Voilà. Alors, juste les mots où vous avez suivi. Est-ce que c'est possible aujourd'hui, parce que quand il y a les services du conseiller spécial chef d'État en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption avec la justice, le fait que ces services n'aient pas un pouvoir contraignant, c'est ce qui empêche quand même la justice aussi de faire son travail.
Mais qu'est-ce que nous allons dire par là? Parce que ceux qui doivent faire
voilà.
La continuité.
Non, je dis à notre invité, je donne la parole à notre invité, M. Gaston. Juste les mots où? Allô, Ghislain Mouéou? Voilà, on a des petits soucis avec la ligne de Ghislain. On va peut-être y revenir. Il est temps de rappeler à ceux qui viennent à peine de nos gens qui peuvent également composer les 081-890-63-30 ou encore les 081-890-49-69 pour votre intervention en direct.
Un jour, une histoire. Un magazine sur le soir du Congo. Révivez les événements importants et historiques du Congo. Découvrez le personnage et acteurs de notre histoire ainsi que leur rôle. Un jour une histoire, c'est l'histoire récente et passée du Congo. Retrouvez toute l'équipe tous les dimanches à 8h30, heure de Kinshasa. En rediffusion le dimanche à 8h30 et 20h30. Le mercredi à 14h15.
Voilà, nous poursuivons. Je crois que la ligne de Ghislain s'est améliorée. On va vérifier notre invité. Ghislain Mouéou?
Oui, je vous écoute.
Voilà, alors vous avez suivi les auditeurs. Par exemple, le général Gaston de Kinshasa évoque l'ordonnance nommant, mettant en place les services du conseiller spécial du chef de l'État en matière de bonne gouvernance, et ces services qui n'ont pas le pouvoir contraignant. Est-ce que c'est l'un des préalables aujourd'hui de donner le caractère contraignant à l'action de Luzolo Bambi pour que le travail de la justice soit efficace afin de lutter contre la corruption?
Oui, bon, je sais que si ce service devait être considéré comme un service dénonciateur, n'est-ce pas, qui devait travailler en synergie avec les instances judiciaires de base, qui pouvaient être disponibilisées à pouvoir ouvrir des dossiers et mener les enquêtes en utilisant leur expertise. Mais ce qui pose problème jusqu'aujourd'hui, peut-être c'est dans le fonctionnement et la réunion des éléments probants pour établir la responsabilité pénale. Ça peut être une des causes qui aujourd'hui crée une crise de confiance entre ces services-là et la justice. Parce que j'ai appris de vous d'ailleurs qu'on aurait libéré les gens et ainsi de suite. Bon, les gens voient toujours la libération d'un mauvais œil, alors que bon, la Constitution a donné des garanties par rapport à cela. Hein, la liberté est une garantie constitutionnelle. Hein, et la détention, c'est vraiment une exception. Et peut-être ils ont peut-être bénéficié de la liberté provisoire ou peut-être les enquêtes doivent continuer. Mais c'est que moi, ça c'est mon point de vue, de mon point de vue, j'ai toujours soutenu ce point de vue-là, je crois vous avoir dit. Je suppose que si nous devons lutter contre, efficacement contre la corruption, si ailleurs on arrive à réussir, c'est parce que dans chaque service, il y a des
un travail en amont.
Oui, il y a un travail qui se fait en amont. La justice n'intervient qu'en aval. En amont, il y a les services. Chaque service a l'audit. Dans chaque structure sociétale, il y a l'audit. Les auditeurs viennent. Si vous ne savez pas prendre ces auditeurs-là, vous pouvez faire recours aux auditeurs indépendants. Il y en a qui peuvent venir auditer votre structure et rédiger un rapport. C'est ces rapports-là qui peuvent permettre à ce que la justice, ayant déjà les rapports, d'ailleurs, je peux vous prévenir, je peux certifier la main sur le cœur, que lorsque on défère les gens qui viennent de n'importe quel service de l'État, si leur dossier est accompagné d'un audit, les rapports de l'audit, ils sont directement placés sous mandat d'arrêt provisoire. Parce que nous ne sommes pas les spécialistes de ce domaine-là. Il y a des gens qui sont spécialistes en matière de détournement, en matière de comptabilité, en matière de ceci. C'est eux qui viennent auditer. On commence par auditer la personne. Lorsqu'on l'audite, on vérifie ce que la personne a reçu. Et vous savez que la plupart de tous ces cas-là de corruption ou de détournement, les gens veulent justifier par les frais de fonctionnement ou justifier par les fournitures de bureaux ou justifier par ceci. Ce sont ces choses-là qui doivent faire l'objet de l'audit. Quand on donne à quelqu'un une gestion, cette personne doit être en mesure de justifier les fonds qui ont été mis à sa disposition. Alors, lorsqu'il n'est pas audité, vous venez seulement le prendre, vous le déférez devant la justice, il va se poser un couac. Et ce couac-là, c'est quoi? Nous risquons que la justice soit en difficulté de prouver. Or, le ministère public, c'est les chiens de chasse des cours et tribunaux. Il ne peut pas envoyer un dossier en fixation et qu'il soit à court d'arguments. C'est honteux pour nous. Parce que la loi nous a donné la possibilité, en tant que maître de l'action publique, de pouvoir classer un dossier lorsqu'il n'y a pas de, les éléments ne sont pas réunis. Mais lorsqu'on envoie un dossier en fixation, c'est pour aller obtenir la condamnation de la personne. Ce n'est pas pour obtenir son acquittement. Ce n'est pas ça notre travail. Notre travail, c'est faire condamner la personne et que cette personne puisse purger sa peine, de sorte que ça soit un cas exemplaire. Voilà pourquoi tout ce que nous disons, c'est un travail qui doit être fait en chaîne. Chacun doit apporter du sien. Hein? On peut avoir dénoncé, la dénonciation peut amener ceux qui ont la gestion de la chose publique, parce que même en interne, on peut auditer ces personnes-là. Enfin, je suivais un auditeur, il voulait parler. Quand je parle de l'audit ici, c'est le contrôle financier. Hein? Donc, je ne vais pas parler d'audit comme audition. L'audition de prévenir, ça c'est autre chose. Mais l'audit ici, c'est le contrôle en interne. Dans chaque service, il y a un service des auditeurs. Ces auditeurs-là, leur mission, c'est comme on appelle les inspecteurs de finances. Leur travail, c'est lequel? Les inspecteurs de finances, leur travail, c'est aller vérifier, hein, de par leur prérogative, tout est dans la loi. Chacun doit faire son travail. Ces inspecteurs de finances doivent faire leur travail. Lorsqu'ils ont fini, ils ont inspecté un service de l'État. Ils doivent être en mesure de proposer un rapport. Ces rapports-là, c'est le rapport de l'audit. C'est ces rapports-là que nous pouvons nous servir de ces rapports comme éléments. Si déjà c'est en interne que la personne est livrée, c'est plus facile pour la justice d'établir sa responsabilité.
Oui. Alors, parce que en justice, il y a la présomption d'innocence, mais quand on remarque, par exemple, une dénonciation publique, est-ce que vous pensez qu'un service qui a un pouvoir consultatif peut procéder de cette manière-là, par exemple, des dénonciations publiques?
Vous savez, lorsqu'il y a des dénonciations, ça peut être dénoncé dans un journal. Dans un journal, on peut dénoncer les détournements des millions ou des ceci, tout ça. Hein? Le journal, pour nous, c'est une source d'information qui peut donner lieu à l'ouverture d'un dossier RI. Il faudrait réunir les éléments. Vous voyez le temps que ça peut prendre pour réunir les éléments, parce qu'il faut réunir les éléments pour que ce dossier-là, RI, soit converti en RMP et procéder aux arrestations. Parce que dans un dossier RI ou registre d'information, à moins que si ça concerne certaines personnes qui jouissent de privilèges de juridiction, on peut considérer ça comme un registre pénal. Mais dans la plupart des cas, c'est un registre d'informations qui sert tout simplement à réunir les éléments de preuve pour être, pour permettre au ministère public de convertir et en RMP et poser les actes d'arrestation ou des actes d'instruction qui peuvent conduire à saisir le tribunal ou la cour selon les cas. Voilà le problème que nous avons. Mais moi, je pense que c'est un problème de la nation. Ce n'est pas un problème individuel. Mmh. C'est un problème de la nation. Puis c'est un problème de la nation, chacun de nous doit mettre du sien. Parce que vous dites que c'est un fléau, même la population est appelée à vouloir à dénoncer ces faits-là. Mmh. Vous ne pouvez pas avoir un voisin. Vous connaissez que ce voisin-là, il travaille dans telle structure. Mais il est en train de vous construire des immeubles. Et vous savez très bien que ce monsieur-là, voilà ce que peut être supposé son revenu. Mais vous ne dénoncez pas. Pensez-vous que le jour que votre maison qui est passée, le voisin va s'écrouler, il va vous demander de venir habiter dans son immeuble?
Mais juste là, deux fois, la population se décourage. Parce que, au regard des tentatives des uns et des autres sans succès, ils sont plus motivés parfois de dénoncer.
Non, mais nous avons un quatrième pouvoir très puissant. Le quatrième pouvoir très puissant, c'est la presse que vous êtes. Donc vous pouvez fouiller et réunir les éléments. Même vous faites passer pour des agents d'audit. Mmh. Donc vous pouvez auditer d'une manière clandestine une structure et réunir les éléments. Et une fois vous dénoncez, vous pouvez, si la justice travaille en collaboration directe avec la presse, qui est comme source d'information. Si vous avez des éléments réunis, vous les mettez à la disposition du magistrat et que le magistrat sait que ça vient de la presse, il y a la preuve, je ne pense pas que cette personne pourrait être libérée. Parce que voilà. Vous qui pouvez accompagner.
Bon, alors, on va écouter également d'autres auditeurs, mais nous vous gardons en ligne, M. Ghislain Mouéou, avant de conclure avec vous, le temps d'écouter deux ou trois ou quatre auditeurs, qui nous ont rejoints à ce niveau du débat. Il y en a Sor et Bintou qui émettront également leur point de vue autour de la contribution de la justice, quel est le regard qu'ils ont, et aussi quels sont les préalables pour arriver finalement à éradiquer ces fléaux. Alors, Nassor, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la radio Capi. Vraiment, je suis très ravi avec cette thématique. C'est de l'amertume de continuer à attendre de tels dégâts, monsieur le journaliste, dans notre pays. Vraiment, nous n'allons pas tourmenter la cause. On sait là où il y a la cause. Moi, je ne suis pas d'accord avec l'invité, car il nous dit qu'il faut qu'il y ait l'audit, le contrôle financier. Ce n'est pas ça le vrai problème. Ce n'est pas ça la grande cause. La cause, c'est au niveau du pilotage, messieurs les journalistes. C'est au niveau de la gestion. Si une chose est mal gérée, je vous dis que tout sera aussi mal géré. C'est-à-dire, moi, je trouve que pour lutter contre la corruption et les détournements dans la RDC, il faut qu'il y ait d'abord l'augmentation des salaires, messieurs.
Condition de vie.
Un salaire médiocre et rapace que les gens touchent une fois qui est mal salarié. Pensez-vous, tu vois une occasion. On dit, on profite quand il y a une occasion. Ce sont des telles choses qui nous arrivent parce que ces gens-là, les salaires qu'ils touchent n'arrivent pas à couvrir leurs besoins. C'est ça le problème. Quand quelqu'un est mal payé, il veut une occasion, il prend. Parce que nous sommes dans une philosophie au Congo de laisser faire. Il n'y a aucun contrôle aux classes.
Voilà. Alors là vous avez rejoint notre invité.
Moi, je trouve qu'il y a encore un sérieux problème, c'est la création des emplois. La création des emplois. Quand quelqu'un voit son supérieur, celui qui touche beaucoup. Moi, je vous dis, l'enseignant qui prépare un député devient grâce à un enseignant. Regardez le salaire qu'un enseignant touche. Et par exemple, si il voit un bien public, est-ce qu'il paye les gens? Non! Regarde l'argent qu'un député national, un député provincial vous touche. Les choses qui
voilà.
font, c'est des joueurs, les choses qui font, ça ne retourne pas au Congolais. C'est ça le vrai problème.
Voilà.
On
pour vous, les causes.
Pour tourner la cause et pour parler de l'audit. Non! La justice aujourd'hui devient un domaine, moi je vous dis, erroné, très mauvais au Congo. ça dépasse même l'enseignement, car c'est là où il y a maintenant beaucoup de corruption. Donc, d'après moi, je trouve que c'est important de faire les remaniements de ce grande personnalité là qui n'arrive pas à faire les choses comme il faut. Il n'arrive pas à être à l'auteur
voilà. de l'État. Merci beaucoup, Nassor. Merci beaucoup.
Il a besoin personnel, il ne voit pas l'intérêt de la population.
Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Nassor. Vous avez évoqué les conditions de vie. Quand ce n'est pas amélioré, voilà, ça donne lieu à la corruption. Et pour lutter, il faut vraiment améliorer cette condition de vie. Et vous avez beaucoup plus insisté là que j'ai aimé parce que vous avez rejoint quand même également notre invité lorsqu'il évoque les contrôles. Vous avez dit c'est l'absence des contrôles qui serait à la base d'ailleurs de cette situation aussi. Merci beaucoup, Nassor. Alors Bintou, vous êtes à Kimpessé. Bonjour, docteur Bintou.
Bonjour, monsieur, bonjour à tous les auditeurs.
Quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Bon, j'ai trois petits points. Le premier, c'est une grande question que tout le monde se pose, qui est celle de savoir, depuis que le Conseil spécial a fait autant de révélations et d'accusations, quel est le procès qui a déjà abouti? Combien d'argent détourné est déjà récupéré par le Trésor public?
Est-ce que Bintou, vous avez suivi notre invité tout à l'heure, qui parlait des registres d'information. Il y a des éléments aussi qu'on donne à titre informatif pour que les procureurs puissent mener des enquêtes. Mais quand tous les éléments ne sont pas réunis, que voulez-vous que la justice puisse faire?
Merci beaucoup, JR. Vous savez que...
Je ne sais pas, vous proposez, vous.
Nous devons éviter des politiques spectacles. Avant d'annoncer quelque chose auprès du public, on doit d'abord réunir les éléments et faire en sorte que les dossiers puissent aboutir afin que l'État congolais puisse récupérer ses droits. Alors, mais s'il s'agit de politiques spectacles, puisque nous en connaissons plusieurs, je peux vous citer entre autres les dossiers des gouverneurs. On avait parlé de ça en 2015. Les dossiers de la FCI, on a parlé de ça, il n'y a pas eu de suite. Et des fonds de promotion de l'industrie. Les dossiers, c'est COFA. Et donc, quelle est la suite? Aujourd'hui avec les léopards, rien du tout.
Mais est-ce que vous êtes d'avis, Bintou, que la justice s'est faite avec de preuves? Quand tous les éléments sont réunis, et comme l'a dit notre invité, c'est à ce niveau-là que la justice, les droits peuvent être dits.
Mais vous savez, M. JR, nous devons...
Parce que la présomption d'innocence...
Il est conseiller spécial du chef de l'État en matière de lutte contre la corruption. Il doit avoir, il a avec lui tous les moyens pour faire les enquêtes avant de mettre sur la...
Mais il ne travaille pas, en tout cas, ce que j'ai compris, il ne travaille pas avec des magistrats, il travaille plutôt avec des OPJ. C'est-à-dire qu'ils sont à la recherche des infractions.
Oui. Deuxième petit point. L'histoire nous apprend qu'en 1992, après l'élection du premier ministre Félix Tshisekedi à la CNS, lors de sa première déclaration, il avait dit simplement que je voudrais assurer que tous ceux-là qui détiennent les biens de l'État, même un silo, de manière illégale, de venir remettre cela en dehors de 48 heures. La réponse était que dans les 48 heures, le palais du peuple n'avait même pas d'endroit où placer les biens de l'État volés. Est-ce que le conseiller du chef de l'État ne peut-il pas suivre de bons exemples pour commencer d'abord par les membres du gouvernement et tous ceux-là qui ont une parcelle de pouvoir, qui détiennent le bien de l'État de manière illégale, de venir d'abord les remettre.
Ben voilà. Alors, j'aimerais bien que notre invité puisse préciser les travails que doit faire les services, que doit faire les services du conseiller spécial et ne pas confondre avec la justice. Hein. Donc, je crois que Bintou, prenez votre mal en patience. Justin Mouéou, vous êtes avec nous. Hein.
Oui, j'ai bien suivi.
Oui, parce que je sais que ces services-là ne remplacent pas la justice quand même.
Oui, ces services-là ne remplacent pas la justice. Moi, je considère ce service comme un service de dénonciation. Mmh. Hein? Alors, si c'est un service qui dénonce le fait, ce service doit réunir les éléments probants pour mettre à la disposition de la justice, parce que la justice n'intervient qu'en aval. Je continue encore à me répéter. La justice n'intervient pas en amont. Dans toutes les structures, vous allez constater que la justice vient intervenir juste après. Et après, pourquoi? Parce qu'il y a déjà un travail qui doit être fait. Je préfère que ce travail-là, lorsqu'il est fait, qu'il soit bien fait. Je me dis, les déclarations politiques, ça c'est un aspect que je n'aime pas trop aborder. Mais moi, je vois une structure qui doit contribuer à permettre à la justice. Parce que nous partons de la philosophie. C'est comme ça que j'ai dit, même un des intervenants de tout à l'heure a semblé nous parler de l'enseignement, il se verse même que la justice est plus corrompue que les enseignants. Moi j'ai dit ceci, on ne construit jamais un pays avec tout le monde. Le pays se construit avec les élites. Et les élites, vous les trouvez dans toutes les structures qui existent. Il y a des enseignants qui n'ont jamais accepté un seul franc. Il y a des policiers qui n'ont jamais accepté un seul franc. Il y a des professeurs qui n'ont jamais accepté cet état de choses. Il y a dans toutes les structures sociétales, vous allez trouver des personnes qui n'ont jamais accepté de se faire ridiculiser en prenant quoi que ce soit de par leurs convictions religieuses. Ça arrive. Ce sont ces personnes-là sur qui il faut miser. Les autres ne peuvent que subir la conséquence de cette vision. Mais pour autant que on va toujours, tel a mal fait, tel a fait ceci, nous n'allons pas évoluer. C'est pour cela que je reviens toujours à ce que je vous ai dit. Nous intervenons en aval. Je préfère qu'en amont, chaque service s'organise ou lorsque le conseil spécial a des informations sur, il a une dénonciation, qu'au préalable, l'audit soit d'abord effectué, de sorte que, une fois l'audit effectué, on aura réuni tous les éléments nécessaires et on les met à la disposition de la justice. Vous savez, c'est difficile pour un magistrat, lorsque les faits sont cristallisés, de quitter la plaque et aller poser des actes. Non. Vous comprenez? C'est difficile pour la magistrature. La magistrature, il y a toujours trois personnes qui interviennent. Les magistrats se retrouvent en face de deux parties. C'est difficile pour ces magistrats-là de se livrer à n'importe quoi que ce soit. Mais ceux qui sont dans les services de l'État, les corrompus et les corruptés, ne sont que deux. Ils ne peuvent pas se dénoncer parce qu'ils se mettent en coréité pour agir, pour prendre ce qui est dû à l'État. Vous me comprenez? Donc, ce qui fait que la justice reçoit les faits, les parquets a l'obligation de réunir les éléments et le présenter devant le juge. Ce serait ridicule pour un procureur général, pour un procureur de la République, pour un chef de parquet, de déférer quelqu'un devant le cour et le tribunal, et que à la suite, que la personne soit acquittée.
Voilà.
Ce alors, serait comme un crime de lèse-majesté.
Voilà. On va écouter juste Félicien, et on n'a plus assez de temps. Félicien, en 30 secondes, quelle est votre contribution? Quels sont les préalables pour vous pour éradiquer ces phénomènes?
Merci, Gérard. Bonjour à tous les auditeurs, bonjour à l'invité.
Vous n'avez que 30 minutes, 30 secondes, pardon.
Quand on parle de l'audit, je ne sais pas de quel audit on parle, parce que dans ce pays, il y avait la Cour des comptes, il y avait l'inspection des finances, il y avait les parlements qui faisaient les contrôles partout, et il y avait les partis État, tout le monde était dans les partis État, et les gens étaient arrêtés, les gens étaient déférés devant la justice, les gens étaient en prison, d'autres ont fui le pays à cause des contrôles, à cause des malversations. Mais aujourd'hui, il suffit d'être du côté du pouvoir, c'est fini, c'est l'impunité, et puis ça passe. Comment on peut parler du conseil spécial du chef de l'État et laisser échouer comme ça? Mais il n'y a pas une autre institution au-dessus du chef de l'État. Nous sommes dans quel pays et qu'est-ce que nous pouvons tirer comme conclusion? Ça fait honte.
Voilà, merci beaucoup Félicien. Alors merci à Ghislain Mouéou. Quelle est votre conclusion, Ghislain?
Bon, j'ai compris tout à l'heure qu'il a compris aussi qu'il faut l'audit, mais ces services existent. Moi je pense qu'il faut peut-être regarder plus de ce côté-là que regarder du côté de la justice. Il faut plus regarder dans les structures étatiques qui doivent, il y a l'inspection générale des finances, il y a la Cour de compte avec le contrôle parlementaire. C'est eux qui ont la mainmise sur les gestionnaires. Et lorsqu'on a réuni les éléments, ces éléments-là peuvent permettre à ce que la justice puisse poursuivre ces gens. Parce que ce serait ridicule pour un magistrat de s'engager dans un débat en rapport avec le détournement des deniers publics. lorsqu'il n'y a pas des éléments, parce que la gestion de la chose publique, ce n'est pas le magistrat qui assure cette gestion. Il y a des personnes qui ont été nommées pour gérer la chose publique.
Alors,
et à qui on a donné les moyens, et ces personnes-là doivent
justifier l'exécution de ces moyens. Ghislain Mouéou, merci d'avoir accepté notre invitation et surtout d'avoir accepté d'échanger avec les auditeurs. Nous rappelons que vous êtes le substitut du procureur général près la cour d'appel de la Gombe. À très bientôt. À vous tous qui avez participé à cette émission, merci de l'intérêt que vous avez accordé à cet échange. On prend rendez-vous avec vous demain dans un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.